Le journal.
Le journal présenté par Adrien Toffolet.
Bonjour à tous. Une tournée masquée pour Jean Castex dans le Nord. Le Premier ministre s'est rendu à Lille et Roubaix ce matin pour faire la promotion des mesures de renforcement du port du masque en extérieur, pour évaluer également auprès des autorités sanitaires locales la situation du virus dans la région. Détail signé Maxence Lambrecq qui a suivi Jean Castex. Il n'y a pas que dans le Nord que la situation se tend ou inquiète. De plus en plus de préfets et de maires font ce choix politique sensible de l'imposer dans les zones les plus à risque, analyse de Sophie Delpont. Dans ce journal également, nous reviendrons sur le scandale de la Dépakine avec cette nouvelle mise en examen contre Sanofi pour homicide involontaire, précision de Tara Schlegel. À l'étranger, les autorités iraniennes cachent-elles l'ampleur véritable de la crise de la Covid dans le pays? Oui, affirme la BBC qui a épluché les relevés officiels. Explication signée Frédéric Mettezo et puis direction l'Italie qui va inaugurer en grande pompe tout à l'heure le viaduc qui remplace le pont Morandi qui s'est effondré il y a 2 ans à Gênes, correspondance de Bruce de Galzin. Un masque sur le visage, Jean Castex a montré l'exemple. Le Premier ministre était en visite dans le Nord ce matin, Lille, puis Roubaix, en compagnie du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le Nord, où la progression du coronavirus dans la région inquiète les autorités. Le port du masque est donc renforcé depuis aujourd'hui, obligatoire dans les zones à fortes affluences de la métropole lilloise, pour plus d'1 million d'habitants sur 95 communes. Maxence Lambrecq, vous avez suivi le Premier ministre dans la matinée. Bonjour.
Bonjour.
L'Agence régionale de santé lui a présenté son dernier bilan. Il l'a invité à faire passer un message. Il ne faut pas relâcher les efforts.
Ouais, coup de projecteur sur une dynamique inquiétante aux yeux des autorités de santé. La métropole lilloise concentre 80% des contaminations du département. Le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants, appelé le taux d'incidence, a presque doublé en une semaine et frôle maintenant le seuil d'alerte, notamment à cause des 15-44 ans qui se sentent invincibles, mais risquent demain de contaminer des personnes fragiles, alerte le chef du SAMU du Nord devant le Premier ministre. Jean Castex a voulu lui-même vérifier le respect du port du masque en allant marcher dans les rues piétonnes du centre-ville de Lille, où à première vue cette nouvelle obligation est respectée. Il s'est rendu ensuite au centre de dépistage de l'Institut Pasteur, pas assez fréquenté pour le moment, même s'il y avait ce matin une belle file de voitures. Les personnes asymptomatiques passent sous les radars, déplore Jean Castex, qui veut à travers ce déplacement montrer que le gouvernement n'est pas en congé, qu'il ne faut pas faire rimer vacances avec insouciance et relâcher la pression là où une deuxième vague se dessine et la menace d'un reconfinement localisé apparaît. Le Premier ministre va tenir dans un instant une conférence de presse sur le parvis de l'hôtel de ville de Roubaix, après avoir visité un atelier de fabrication de masques en tissu où d'anciennes ouvrières du textile reprennent du service. Un atelier qui restera lui aussi en activité tout au long de l'été.
Maxence Lambrecq à Roubaix avec Christophe Papon à la technique. Merci à vous deux. Renforcement des dispositions entourant le port du masque en extérieur. Nous le disions, d'autres mesures du même ordre sont prises par les préfets un peu partout en France. On citera la Mayenne dans 69 communes où la circulation du virus est active, mais aussi Biarritz, Bayonne, Saint-Malo, le Touquet, Orléans ou encore Nice. Pas de promenade des Anglais sans masque. Des choix qui sont pris localement, comme l'a délégué le gouvernement. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Choix politique très sensible, Sophie.
Oui, l'enjeu est de maintenir l'équilibre entre une mesure de santé publique et l'acceptation par la population, avec en toile de fond la question économique du remboursement ou non des masques pour l'ensemble des populations sur ces territoires. Alors même qu'un laisser-aller dans les mesures barrières peut s'observer, souligné notamment chez les jeunes. À Nice, le maire LR Christian Estrosi a effectivement signé hier soir un arrêté municipal entré en vigueur dès ce matin à 10h, sans attendre la réponse du préfet à qui il avait demandé vendredi de prendre un arrêté préfectoral. L'édile a donc pris les devants dès hier soir, voulant rester en pointe sur la réactivité face à la pandémie. Placer le curseur au bon endroit pour protéger la population, parfois malgré les résistances, même si on est encore loin des manifestations de désobéissance revendiquées, comme on a pu le voir ce week-end à Berlin, où plus de 20 000 personnes non masqués ont manifesté contre le port du masque et contre les mesures barrières. Après l'annonce vendredi sur Twitter du ministre de la Santé, Olivier Véran, sur la possibilité pour les préfets de prendre des arrêtés rendant obligatoire le port du masque, un autre débat est donc revenu sur le devant de la scène, celui du remboursement intégral ou non des masques pour l'ensemble des populations. Pour Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, cette prise en charge par les pouvoirs publics est une question de santé publique et de justice sociale. Même position l'opposition à la France insoumise et chez le mouvement Génération, restera maintenant à évaluer ce qu'un remboursement intégral pourrait représenter pour la sécurité sociale en pleine pandémie.
Sophie Delpont, merci. Rien à voir avec le coronavirus, mais décision politique aussi. La base de loisirs d'Étampes en Essonne sera désormais surveillée depuis le ciel par 2 drones. C'est la solution trouvée par la direction du site avec le soutien de la région suite à la bagarre géante qui a éclaté là-bas vendredi dernier entre des jeunes de bandes rivales. Des drones de surveillance et de dissuasion avec haut-parleurs. Les élus locaux réclament également de l'État des renforts de forces de l'ordre. Une nouvelle étape judiciaire dans l'affaire de la Dépakine, cette anti-épileptique accusée d'avoir provoqué des malformations et des retards de développement sur des enfants dont les mères avaient pris la Dépakine pendant leur grossesse. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
Le groupe Sanofi qui produit le médicament était poursuivi depuis février pour blessures involontaires et tromperies aggravées. Les juges d'instruction ajoutent aujourd'hui la mise en examen pour homicide involontaire.
Oui, le laboratoire l'a confirmé ce matin, ajoutant qu'il avait saisi la chambre de l'instruction pour contester cette mise en examen supplémentaire. Sanofi se l'est vu notifier le 20 juillet. Le laboratoire était donc au courant depuis 15 jours, mais ne s'en était pas vanté jusque-là. Dans ce scandale qui regroupe 79 dossiers, 4 nouvelles plaintes ont permis cette qualification d'homicide involontaire. 4 parents qui ont eu le courage, souligne l'association des victimes de la Dépakine, de porter plainte après la mort de leur nouveau-né. Le dernier était né en 2014. Dans l'ordonnance que Le Monde s'est procurée, mais qui est couverte par le secret de l'instruction, les juges estiment, je cite, « il n'est pas contestable que le lien entre la prise de la Dépakine et les dommages constatés chez les très jeunes victimes est scientifiquement établi ». Les juges ajoutent que Sanofi n'a pas tiré toutes les conséquences de la toxicité de son médicament, toxicité connue depuis des années 80. Or, la Dépakine est prescrite depuis 1967. Environ 10% des femmes enceintes qui en prennent pendant leur grossesse accouchent d'enfants ayant des malformations congénitales très sévères, mais il y a aussi d'autres troubles, des retards mentaux ou moteurs dans 40% des naissances. D'où cette extrapolation, le scandale de la Dépakine pourrait avoir frappé jusqu'à 30 000 enfants en France. C'est une estimation officielle de l'Agence du médicament. C'est dire l'ampleur du procès à venir s'il a lieu. D'ores et déjà, on sait qu'une 40aine de nouvelles plaintes pour homicide involontaire vont être déposées avant la fin de l'année.
Tara Schlegel, merci. Déjà banni de la plateforme vidéo YouTube, Dionane Mbalambala se voit maintenant exclu de manière définitive des réseaux sociaux Facebook et Instagram, sanctionné par le groupe en raison de la publication de contenus se moquant des victimes de la Shoah et termes déshumanisants à l'encontre des Juifs. La semaine dernière, son complice d'extrême droite, l'essayiste Alain Soral, a été mis en examen, notamment pour provocation publique à la haine ou à la violence, lui aussi pour ses publications sur Internet. Avec près de 2700 nouveaux cas de Covid-19 ces dernières 24 heures, l'Iran bat de nouveau un record de contamination. Selon les autorités iraniennes, le bilan de l'épidémie dans le pays est très précisément de 17 190 morts, mais il se pourrait en réalité qu'on soit très loin au-dessus de ce comptage officiel. Selon la BBC, il y aurait en réalité 3 fois plus de morts que dans les bilans. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Ça signifie tout simplement que le régime a tenté en vain de cacher l'étendue de la catastrophe.
Voilà la catastrophe qui serait de 42 000 morts selon la BBC qui cite des documents officiels très détaillés. Téhéran enregistre le plus grand nombre de victimes, mais en proportion, la ville sainte-chiite de Qom est la plus touchée. Selon ces documents, la première victime iranienne du coronavirus est morte le 22 janvier, alors que les données officielles parlent du 22 février. Le gouvernement semble avoir tout fait pour minimiser cette épidémie qui souligne les insuffisances du système de santé iranien, épidémie qui a éclaté au plus mauvais moment. Pendant les célébrations de la révolution de 1979, pendant les législatives et juste avant le nouvel an iranien Nowruz. Outre la situation sanitaire, l'Iran est très affaibli par les sanctions économiques américaines. Il en allait donc de la fierté et de la sécurité nationale pour envoyer une image moins dramatique au monde. C'est raté. Avec 42 000 morts sur 84 millions d'habitants, l'Iran est l'un des 5 pays les plus touchés au monde.
Et dans le monde, merci Frédéric Mettezo, dans le monde, l'épidémie de Covid bat de nouveaux records. encore officiels, cela. Plus de 18 millions de personnes ont été contaminées selon le comptage de l'agence France Presse, avec une propagation toujours soutenue aux États-Unis et en Amérique latine. L'Argentine compte maintenant 200 000 cas de contamination. Les rassemblements sont interdits dans tout le pays. Une quarantaine stricte est également imposée au Venezuela depuis hier. Les États-Unis, eux, sont entrés dans une nouvelle phase de l'épidémie selon la Maison Blanche. Les zones rurales ne sont plus à l'abri. Le nombre de victimes totales avoisine les 155 000 morts. En Afghanistan, l'Aïd a permis au pays une pause de 3 jours dans la violence qui oppose les talibans aux forces gouvernementales. Pause de courte durée, hélas. Hier soir, c'est le groupe État islamique qui a lancé un assaut sur une prison dans l'est du pays. Au moins 20 personnes ont été tuées, Valérie Crova.
C'est pour venger la mort d'un haut responsable local de l'État islamique, tué ce week-end par les forces spéciales afghanes près de Jalalabad, que l'État islamique a lancé un assaut dès hier soir contre cette prison où sont détenus 2000 criminels, essentiellement des talibans et des combattants du groupe djihadiste. Cette attaque va-t-elle peser sur la reprise des pourparlers de paix entre les talibans et les autorités afghanes? Des pourparlers qui devaient reprendre après la fête de l'Aïd. 3 jours au cours desquels les talibans ont respecté une trêve souhaitée et encouragée par le président afghan Ashraf Ghani. Mais l'État islamique n'y avait pas été associé et cette trêve a de fait volé en éclats. Le HI, qui compterait encore plus de 2000 combattants en Afghanistan, n'a eu de cesse de vouloir torpiller les efforts de paix entre les talibans et les autorités afghanes. Les deux camps ont accepté tout récemment d'entamer des discussions directes, reportées à maintes reprises depuis que les États-Unis et les talibans ont signé un accord historique à Doha en février dernier. Cet accord doit déboucher sur un retrait des derniers soldats américains présents sur le sol afghan, dans l'espoir encore fragile de mettre un terme après de 20 années de guerre.
Valérie Crova, après un mois de calme, une roquette a été tirée hier soir vers Israël depuis la bande de Gaza. Le projectile a été intercepté par Tsahal, qui a répliqué par des frappes sur des infrastructures souterraines du Hamas sur le territoire palestinien. Le précédent tir de roquette contre l'État hébreu depuis l'enclave remonte à début juillet. Direction l'Italie maintenant, où pratiquement 2 ans, jour pour jour, après l'effondrement du pont Morandi de Gênes, c'était le 14 août 2018, 43 personnes avaient perdu la vie. Pratiquement donc 2 ans après, le pays inaugure tout à l'heure un nouveau viaduc, cérémonie officielle à 18h30, conduite par le chef du gouvernement Giuseppe Conte et le président de la République Sergio Mattarella. Le nouveau pont est l'œuvre de l'architecte Renzo Piano, reconstruit en un temps record, 12 mois seulement. Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Rome. Alors on parle de ce pont comme d'une prouesse, un modèle à suivre et à reproduire pour les futurs chantiers à conduire en Italie, mais ce sera loin d'être aussi simple.
Ah oui, et le modèle au Genova est montré en exemple. En effet, l'idée de s'en inspirer pour relancer les chantiers et les infrastructures du pays qui en ont bien besoin. Alors que s'est-il passé pour que le pont soit reconstruit aussi vite? À peine 12 mois depuis qu'il a été totalement détruit. Eh bien, beaucoup d'argent a été débloqué. Un commissaire extraordinaire, le maire de Gênes, a été désigné et doté de super pouvoirs pour accélérer les procédures. Il n'a pas été obligé de suivre le code des marchés publics. Et en Italie, il est particulièrement imposant. Alors tout va plus vite, pas d'appel d'offres, des recours contre le projet impossible. Et il faut dire que le maire de Gênes a joué des coudes. Marco Bucci n'est pas un politique. C'est un chef d'entreprise qui a passé 20 ans aux États-Unis. Et il le dit, j'ai imposé une méthode de travail américaine. J'ai protégé le chantier contre le système bureaucratique. Le maire qui crie, comme il est surnommé, n'a jamais douté que Gênes se relèverait et construirait son nouveau pont dans les temps. Pour autant, le modèle ne peut pas être répliqué à l'identique. La ministre des Transports a déjà prévenu, impossible d'abolir le code des marchés publics et de ne plus faire d'appel d'offres, impossible d'interdire les recours. En revanche, il faut accélérer les procédures et c'est possible, dit la ministre. Le modèle de Gênes sera donc un exemple dont il faudra s'inspirer, mais ne sera pas le nouveau modèle de construction à l'italienne.
Bruce de Galzin, merci. Au sujet des cérémonies, les familles des victimes ne seront pas présentes tout à l'heure. Elles les jugent déplacées. En revanche, elles seront reçues avant par le président Sergio Mattarella. L'enquête sur la tragédie devrait s'achever en octobre pour un procès qui débuterait début 2021. Il a été l'un des artisans de la réconciliation en Irlande du Nord. Joe Hume est décédé ce matin. l'ancien leader catholique nationaliste, s'était vu attribuer le prix Nobel de paix en 1998 avec le dirigeant protestant du parti unioniste de l'Ulster, David Trimble. Reconnaissance ultime de leurs efforts pour trouver une solution pacifique. John Hume avait 83 ans. Le temps cet après-midi, pas de véritable amélioration avec de la pluie et des orages sur les Hauts-de-France, le Grand Est, les Alpes et la Corse, des averses dans le centre du pays en Île-de-France, grand soleil sur l'arc méditerranéen, la pointe bretonne et la Manche et un ciel voilé partout ailleurs. Les températures sont moins hautes que ces derniers jours, entre 18 et 29 degrés, 19 à Brest et Lille, 20 à Strasbourg, 21 à Bordeaux, 22 à Paris, 24 à Lyon et 27 à Perpignan. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia. Merci à lui.